Des échanges apaisés, confiants et transparents, c'est le souhait du ministre chargé des Outre-mer qui arrive demain sur le territoire. François-Noël Buffet rencontrera notamment les acteurs du monde économique. Le mémorandum est nul et non avenu. La présidente du Congrès, Velma Falaeo, affirme que le document signé en catimini par Omeran Eslin en Azerbaïdjan n'a aucune valeur juridique et n'est plus un sujet. On ne les oubliera pas. Michel Barnier, le Premier ministre, participait aux hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs assassinés par des islamistes. Vous entendrez le Premier ministre dans ce journal. La pilule a du mal à passer, les salariés de Doliprane sont en grève dans l'usine située en Normandie. Sanofi veut céder 50% du capital du médicament à un fonds américain. Le football, duel décisif pour l'équipe de France. Les Bleus affrontent la Belgique pour la 4e journée de la Ligue des Nations et les Bleus ont eu chaud puisque les Diables Rouges ont raté un pénalty. La météo, vent violent sur une bonne partie du territoire. Vigilance jaune sur le sud-ouest de Bouraï à Nouméa, sur le nord-est de Poingam à Yengen et sur le sud-est de Canala à Thio. Les nuages élevés s'épaississent en cours de journée. La grisaille gagne l'ensemble du territoire. Les températures maximales restent fraîches pour la saison. Elles s'échelonnent de 22 degrés sur l'île des Pins à 24 voire 25 degrés sur l'est et les Loyautés et puis 26 à 28 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, la visite ministérielle.
Oui, puisque c'est demain que le ministre chargé des Outre-mer arrive en Nouvelle-Calédonie. François-Noël Buffet passera 4 jours sur place pour ce premier déplacement qu'il effectue en tant que ministre, alors qu'il a eu l'occasion de venir à 2 reprises comme membre et président de la commission des lois du Sénat. Au cours de cette visite, il veut, selon son cabinet, avoir des échanges apaisés, confiants et transparents avec l'ensemble des acteurs calédoniens. Et il veut incarner une méthode de reprise des discussions après la période de crise que connaît le territoire depuis le 13 mai, même s'il sait que la crise n'est pas terminée. Ce déplacement de François-Noël Buffet sera marqué par 2 grandes thématiques, l'économie et la politique. Il rencontrera d'ailleurs les acteurs économiques jeudi matin et il se rendra sur le terrain pour visiter des entreprises sinistrées. Et dans un autre domaine, il participera à la réunion de la French Tech qui se tient demain et jeudi. À l'occasion de cette visite, le ministre des Outre-mer précisera comment l'État veut s'inscrire dans les plans proposés par les Calédoniens et notamment dans le PS2R préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Au chapitre politique maintenant, François-Noël Buffet aura des discussions avec les acteurs locaux et avec les responsables d'institutions. Il rencontrera le président du gouvernement et les membres de l'exécutif et s'entretiendra avec la présidente du Congrès. Il consacrera également une séquence aux maires en rencontrant les présidents des 2 associations de maires et les maires du Grand Nouméa qui ont le plus souffert des exactions. Le ministre qui, selon son cabinet, place ce déplacement sous le signe de l'écoute, explicitera à cette occasion la décision de reporter les élections provinciales dans la volonté notamment de se donner le temps de renouer le dialogue et de relancer un processus qui repose sur la confiance. Et puisqu'on parle de relance économique, un travail titanesque. C'est ainsi que le gouvernement et les élus du Congrès qualifient le PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour relancer le territoire après la violence insurrectionnelle qui l'a frappé à partir du mois de mai. Le plan était présenté hier pour la première fois aux élus du Congrès lors d'une commission plénière à huis clos. Et il a fallu 5 heures de débat pour échanger sur les mesures de sauvegarde à court terme et pour commencer la réflexion sur les mesures de refondation. Écoutez le commentaire de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble.
L'intérêt, je pense, pour le Congrès, d'abord, c'est de travailler en synergie avec le gouvernement. Donc c'est ce que cette réunion permet. Il ne faut surtout pas que cette réunion soit la dernière, et ce ne sera pas le cas, et que les institutions, l'exécutif, le législatif, donc le Congrès et le gouvernement, continuent de se voir, dans un cadre peut-être un peu moins formel qu'une commission plénière, mais continuent de se voir pour avancer sur un champ qui est un champ, le président du gouvernement l'a dit lui-même, titanesque. On a 4 modèles à revoir, social, économique, sociétal et institutionnel, dans une période de crise qui est historique. Donc des premières mesures sont avancées, elles n'ont pas fait l'objet d'une validation, c'était une présentation. Jeudi, il y aura de nouveau, de manière publique, cette présentation. Et après cette étape de jeudi et celle d'aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on continue de travailler pour d'abord bien nous mettre d'accord sur les constats.
La mise en œuvre de ce plan va encore nécessiter beaucoup de travail qui va se prolonger au moins jusqu'à mi-2025 pour l'étape de refondation. Entre-temps, il faudra prendre des mesures de sauvegarde et notamment obtenir de l'État la sécurisation du chômage partiel. Économie toujours et l'événement Sotec So Good qui se déroulera demain et jeudi à Nouméa. Un rendez-vous international des acteurs de la tech après près de 10 communautés French Tech des Outre-mer et du Pacifique. Eh bien, nous en parlerons tout à l'heure en compagnie d'Aurore Kléper, qui est la manager de la French Tech Nouvelle-Calédonie et organisatrice de l'événement. Elle sera notre invitée du matin à 7h30 pour nous présenter donc cet événement. Et puis l'accompagnement des demandeurs d'emploi en province sud, ce sera le thème ce midi de notre magazine Citoyen. Nous serons en compagnie de Marie Benzaglou, la directrice de l'emploi et du logement de la province sud, de Stéphanie Gaillot, la chef du service de l'emploi et du logement, et d'Ève Dumas, conseillère à l'emploi à la province sud. Une émission à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Je le disais en titre, le mémorandum signé entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan est nul et non avenu et il n'a aucune existence. C'est ce qu'a déclaré solennellement hier après-midi la présidente du Congrès, Velma Falaeo, Elisabeth Noir.
C'est un document qui avait fait couler beaucoup d'encre et qui avait suscité une très vive émotion. On apprenait en avril qu'Omer Haneslin avait signé à Bakou, au nom du président du Congrès, un mémorandum avec la République d'Azerbaïdjan, un pays autoritaire qui mène une répression violente à l'égard des Arméniens du Haut-Karabakh. Une signature validée par le président du Congrès de l'époque, Rokomiton, qui parlait d'une relation d'amitié et d'un réseau à l'international. Le problème, c'est que les élus du Congrès ont appris, a posteriori, la signature de ce mémorandum, qui ne leur a d'ailleurs jamais été transmis. Autre difficulté, Omer Haneslin et l'UUC n'avaient aucune légitimité pour engager le Congrès et pour signer un tel document. C'est ce qu'a d'abord souligné la présidente du Congrès, Velma Falaeo.
Madame Neslin, qui est donc celle qui a signé cet acte le 18 avril dernier, n'était pas vice-présidente. Donc officiellement et juridiquement, elle n'était pas habilitée à engager la responsabilité et le Congrès au nom du président. Ce qui fait que matériellement, aucun élu, ni moi-même, ni même l'administration, n'avons eu en fait copie de ce mémorandum. Et donc pour ces raisons, le mémorandum est juridiquement non existant.
Un document non existant donc, mais la présidente du Congrès va plus loin pour clore la polémique. Elle déclare ce document nul et non avenu et elle appelle à se tourner vers l'avenir et à rétablir la confiance.
En tant que présidente et au nom du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je déclare et je confirme que ce mémorandum est nul, non avenu, de nul effet, puisqu'il est sans existence. Ce n'est plus aujourd'hui un sujet pour le Congrès, ainsi que tout ce qui en découlerait. L'important aujourd'hui, c'est que nous devons rebâtir notre confiance en l'avenir, rebâtir notre confiance en nous, rebâtir la cohésion, rebâtir les structures et les emplois, surtout les lieux où nous faisons société, où l'on fait peuple, rebâtir l'unité.
Cette déclaration face à la presse intervient après un échange de courrier avec le haut-commissaire. Celui-ci avait formé un recours gracieux dans lequel il relevait l'illégalité de ce mémorandum. Louis Lefranc écrivait notamment que ce mémorandum qui vise des actions de coopération entre le Congrès et l'Assemblée de l'Azerbaïdjan ne peut relever que du champ de compétences des relations extérieures. L'Azerbaïdjan n'étant ni un État du Pacifique ni une collectivité locale étrangère, la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas des compétences pour signer des conventions avec cet État ou l'une de ses institutions, ajoutait le haut-commissaire. Il demandait en conséquence à la présidente de retirer l'engagement de cet acte au nom du Congrès. Et c'est donc chose faite.
Radio Rythme Bleu, il est 6h39.
Un coup de tonnerre pour Thio et pour le monde de la mine. La SLN a annoncé hier matin la mise en sommeil du site de Thio. Une décision prise en raison des blocages qui persistent depuis le mois d'avril, mais aussi d'un nombre important d'exactions sur le site qui a été vandalisé à de multiples reprises, Léana Colombo.
Depuis des mois, il y a eu beaucoup de vols et des destructions d'équipements par incendie. Des exactions qui ont touché les ateliers, les bureaux administratifs, les laboratoires ou encore les villas des employés. Sans oublier les engins, les pelles et les camions. À cela s'ajoutent les blocages, les agressions verbales, les menaces et les intrusions répétées sur les installations. La semaine dernière, la SLN a informé l'ensemble des partenaires sociaux et les institutions de cette procédure de mise en sommeil. Jusque-là, les salariés étaient pris en charge au titre du chômage partiel qui était assuré jusqu'à samedi. La mise en sommeil du site vise, selon un communiqué interne de la direction, à leur permettre de bénéficier du chômage total exaction. Le maire de Thio, Jean-Patrick Toura, est sous le choc. Sa commune était déjà largement sinistrée et la mise en sommeil de la SLN est un coup extrêmement dur.
L'information est passée au niveau des coutumiers, du conseil municipal, des employés, l'information à la population dans les jours qui vont venir. Et puis nous, maintenant, à la communauté, comment on réagit par rapport à la fermeture avec tous les emplois indirects, comme les commerces, les stations essence, les marchés qui comment ramener la confiance, ramener l'économie au niveau de la commune.
Quelques 230 salariés travaillaient sur les 3 mines encore exploitées de la commune. À cela s'ajoutent 120 emplois de sous-traitance qui sont également menacés. Le maire de Thiot a demandé à l'État une aide d'urgence après la perte quasi totale des emplois dans sa commune.
Et dans un communiqué, Génération NC exprime sa profonde inquiétude face à l'annonce de la mise en sommeil des sites miniers de Thiot par la SLN. Le parti précise que le député Nicolas Metzdorf a rencontré les syndicats et la direction pour défendre une indemnisation juste et équitable des salariés, témoignant ainsi du soutien total à ceux qui sont touchés par cette crise.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Commençons par notre question du jour. Selon vous, la SLN a-t-elle eu raison de mettre en sommeil son centre minier de Thiot? Si vous pensez qu'elle a eu raison, vous tapez 1. Si vous pensez qu'elle a eu tort, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, maintenant, 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que 5 mois après le 13 mai, le début des violences insurrectionnelles, on ne peut toujours pas parler de retour à la vie normale. Ils ne sont que 3% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 6h42, vous écoutez Radio Rythme Bleu, direction la métropole après la pub avec notamment les hommages rendus à Samuel Paty.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance, et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Ou du tout. Ouh.
Avec Bonus Répare, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco, avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répare, c'est tout bonus.
Bonus Répare est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et je le disais il y a un instant, Michel Barnier s'est rendu à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, cette nuit pour nous, 4 ans après la mort de Samuel Paty. Le professeur avait été décapité par un terroriste. Le Premier ministre, accompagné de la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a prononcé quelques mots devant les élèves du collège de Bois-d'Aulne.
C'est pas pour faire des sbrouffes, c'est pas pour faire de grandes cérémonies, c'est juste pour partager un moment avec vous, qui est un moment important, aussi dans toute la France en ce moment. Celui d'un hommage qu'on veut rendre à Dominique Bernard également, en même temps qu'à Samuel Paty, qui était professeur de lettres, qui a été assassiné devant son établissement à Arras le 13 octobre 2023, il y a tout juste un an. Et tous deux, ils ont été victimes du terrorisme islamiste, notamment parce qu'ils étaient professeurs. Ils enseignaient l'histoire de France, la connaissance du monde, l'amour de la langue française. Ils transmettaient, ils vous transmettaient le goût d'apprendre et ils transmettaient aussi tous les deux l'esprit de citoyenneté. Une fierté qu'on doit partager, mais qui a aussi des devoirs et puis des droits. Ils ont eu le courage de défendre les valeurs de la République et de vouloir protéger leurs élèves.
L'hommage à Samuel Paty en même temps que celui à Dominique Bernard a eu lieu dans tous les établissements scolaires. C'était le cas évidemment au lycée Gambetta à Arras, là où Dominique Bernard a été sauvagement assassiné. Et en plus de la minute de silence pour se recueillir, les élèves ont pu échanger avec leurs professeurs pour évoquer les questions de laïcité et le traumatisme après ces attaques islamistes. Mayana se dit quant à elle partagée entre le devoir de mémoire et la volonté de reprendre une vie normale. Écoutez-la.
C'est un truc qu'il faut faire pour rendre hommage aux professeurs, etc. Et voilà, c'est un peu pesant, c'est vrai, mais il faut supporter et attendre que ça passe. C'est assez traumatisant pour les élèves qu'ils ont vécu, pour les professeurs qui le connaissaient, etc. Voilà, après c'est difficile, mais il y a toujours des professeurs et des accompagnants qui seront là pour nous écouter, etc. en cas de besoin, mais c'est plutôt bien de savoir qu'on peut parler.
Un hommage qui se déroulera également en Nouvelle-Calédonie, mais en raison des vacances scolaires, la minute de silence sera observée la semaine prochaine, lundi ou mardi, au choix des établissements. L'actualité politique, il est quasiment l'unique soutien et l'unique caution de gauche du gouvernement. Le nouveau garde des Sceaux, Didier Migaud, doit désormais faire entendre sa voix face à un Premier ministre issu des Républicains. Et il doit d'ailleurs s'imposer sur l'étape du budget. Le ministre de la Justice veut éviter les économies de 500 millions d'euros, soit près de 60 milliards de francs imposés à la justice, quitte à menacer de démissionner.
Si on en reste à la lettre plafond, oui, je ne vois pas ce que je ferais encore au gouvernement. Mais j'ai eu des assurances du Premier ministre et je lui fais totale confiance. Il est tout à fait conscient de cette situation.
Didier Migaud qui tentera donc de corriger cette baisse de budget de la justice à l'occasion des débats parlementaires. Le ministre de la Justice déclare tout de même, vous l'avez entendu, faire confiance au Premier ministre qui lui a donné des assurances. Mais le budget ne sera toutefois peut-être pas récupéré en totalité, a-t-il déclaré. Dans le reste de l'actualité, en métropole, on connaît désormais les auteurs présumés de l'incendie des 4 véhicules de police la semaine dernière devant le commissariat de Cavaillon, dans le Vaucluse. Ce sont deux jeunes de 19 et 24 ans. Ils ont été interpellés et écroués le jour même. Les suspects ont été recrutés en région parisienne pour brouiller les pistes. Un recrutement comme pour n'importe quel travail, Nina Pavant.
Un phénomène de plus en plus fréquent, déjà observé par les policiers. Ces jeunes de 14 à 25 ans sont recrutés partout en France par les narcotrafiquants. Du crime par intérim, comme l'explique Bruno Bartosetti, délégué de la zone sud du syndicat Unité.
J'emploie le terme CDD, des jeunes gens, des mineurs pour chouffer, pour guetter.
Mais aujourd'hui, guetter ne suffit plus. Les jeunes recrutés peuvent donc mener des opérations de représailles contre les forces de l'ordre ou même devenir tueurs à gages à seulement 14 ans, comme à Marseille il y a encore quelques jours.
C'est surtout pour créer la diversion, dans le sens où c'est très difficile pour nous, enquêteurs, d'identifier des jeunes recrues. Parfois même certaines jeunes gens ne sont pas connus encore des services de police. Ensuite, ces jeunes sont hors du réseau régional. Les commanditaires se protègent.
Dans l'affaire de Cavaillon, le parquet du Vaucluse nous confirme que l'un des deux incendiaires n'était pas connu des services de police. L'enquête doit maintenant déterminer quel gang local a pu commanditer cet incendie.
Un événement qui était survenu alors que la police menait des actions particulièrement offensives à l'encontre du trafic de stupéfiants dans la région. Selon les premiers éléments, il s'agirait de représailles après une opération Place Nette opérée par les forces de l'ordre. L'actualité sociale est cette poussée de fièvre chez Sanofi. L'entreprise pharmaceutique est en discussion avec un fonds américain pour lui revendre sa filiale qui produit le Doliprane. Un projet qui alimente les craintes de délocalisation et donc de destruction d'emplois, notamment à l'usine de Lisieux, en Normandie. Les salariés sont donc en grève et ils ont reçu la visite des ministres de l'économie et de l'industrie. Sandrine Prioul pour Europe 1.
Visite express dans cette zone industrielle de Lisieux. Antoine Armand et Marc Ferracci, l'économie et l'industrie conjointement venus au chevet de Doliprane.
Si projet de cession il devait y avoir, nous demanderons des conditions extrêmement précises, fortes et intangibles. Le Doliprane continuera à être produit en France.
Un tour de cette usine presque à l'arrêt, des échanges avec les syndicats, mais les ministres peinent à rassurer l'élu CGT Éric Barbet sur la fabrication du médicament plébiscité par les Français.
Aujourd'hui, on peut continuer à fabriquer le Doliprane sur les yeux. Demain, qui nous garantit que ce sera ça? On n'arrive pas à comprendre pourquoi Sanofi, excuse-moi de dire ça comme ça, mais nous dégage, quoi. C'est, si ce n'est pour des raisons financières, bien sûr. Ce sont des financiers qui sont à la tête du groupe, donc le patient, il passe en second plan.
Dehors, un piquet de grève de salariés qui se disent écœurés par la nouvelle. À 200 km de là, au salon de l'automobile, Emmanuel Macron assure lui juste que quoi qu'il arrive, la France saura gérer son approvisionnement en Doliprane.
Emmanuel Macron qui déclare effectivement de son côté que la France dispose des instruments pour garantir la protection de ses intérêts. Fin de citation. En bref, la préfecture de Martinique évoque un retour à la normale. Elle fait état d'une nette diminution des exactions et des blocages. Aucun incident notable n'a été relevé par la police et la gendarmerie au cours des dernières 48 heures. Une décision doit être prise dans les prochaines heures pour prolonger ou non l'interdiction de déplacement nocturne. Il est 6h50, vous écoutez Radio Rythme Bleu. La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, ce sera juste après la publicité avec notamment le risque incendie et le Nord qui est toujours touché. On en parle juste après ça.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Info Matin avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la journée d'hier qui a encore une fois été marquée par de nombreux feux de brousse en province nord. Le plus gros d'entre eux a dévoré 7 hectares de végétation entre le lotissement Les Cigales et la résidence Nagara à Koné. Heureusement, les habitations n'ont pas été touchées, et ce grâce au renfort de la sécurité civile et d'un hélicoptère bombardier d'eau. Trois feux ont également été déclenchés au niveau de la tribu de Baco, deux autres à côté du complexe commercial Théhari et du lotissement Payamboué. En bref, une journée très chargée pour les pompiers du SIVM Nord, mais malheureusement habituelle. Selon le commandant Silvio Loquet, chef de corps des sapeurs-pompiers de Koné, ce sont près d'une centaine d'incendies en plus qui ont été constatés par rapport au mois de septembre de l'année dernière. Écoutez.
Par rapport à l'année dernière, c'est 100 feux en plus. C'est énorme pour un centre de secours comme le nôtre, parce que nous avons des moyens qui sont dimensionnés pour des interventions normales, pour le risque courant. Et là, le nombre d'interventions et quelquefois les surfaces qui sont impactées dépassent nos capacités d'intervention. C'est pour cela qu'on fait appel aux moyens de la sécurité civile, qui sont très réactifs. La chose, c'est que si on pouvait avoir moins d'activité sur les feux de brousse pour nous, ce serait plutôt profitable pour la population, parce que à partir du moment que nous sommes engagés sur les feux de brousse, avec les moyens on dispose, on met beaucoup plus de temps pour nous désengager de ces feux-là et ensuite intervenir sur des secours d'urgence à personne. Donc bon, je lance un appel aussi à la population quoi, pour faire passer le message à tout le monde.
Les incendies ont heureusement pu être maîtrisés. Et puis à Nouméa, c'est le terrain de foot de la Vallée du Tir qui a été ciblé hier. Une première fois, les pompiers, vers 9h, sont intervenus. Ils sont retournés à 18h en soirée. Les forces de l'ordre sont vite intervenues dans le quartier. En bref, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met en ligne Géorisque, un portail d'informations géographiques dédié aux aléas naturels. Ce site offre un accès simplifié aux données comme les mouvements de terrain, l'érosion du littoral ou encore la présence d'amiante via une carte interactive. Ces données seront régulièrement mises à jour et il vous sera même possible de contribuer à enrichir ces informations en signalant vos observations. Les données recueillies et diffusées ont pour objectif d'appuyer les politiques publiques locales, que ce soit dans le domaine du logement ou encore des transports. L'actualité dans la région maintenant, le roi Charles III et son épouse effectueront une visite en Australie avant d'assister à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tiendra ensuite au Samoa. C'est la correspondance ce matin de Jean-Pierre Zajac.
Le roi et son épouse arriveront vendredi soir à Canberra où leur programme officiel ne débutera toutefois que lundi. Le palais de Buckingham a indiqué dans un communiqué que, je cite, « les activités du couple se concentreront sur des thèmes conçus pour célébrer le meilleur de l'Australie. » Le roi déposera aussi une gerbe au Mémorial militaire de Canberra lundi midi, avant d'être officiellement accueilli au Parlement par le Premier ministre Anthony Albanese. Le couple royal s'envolera ensuite pour Sydney, où un bain de foule est notamment prévu sur les marches de l'Opéra. Un barbecue communautaire est également programmé. Le roi et son épouse quitteront ensuite l'Australie pour Apia, la capitale du Samoa, où se tiendra la réunion annuelle des chefs de gouvernement du Commonwealth. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 6h passées de 55 minutes, une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive. On parlera de football ce matin puisque la France affronte la Belgique pour la 4e journée de la Ligue des Nations.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La nuit de la science de l'UNC se réinvente. L'UNC ouvre ses portes pour une journée des sciences le mercredi 23 octobre à partir de 13h sur le campus de Nouville. Au programme, des expositions, des projections, une bibliothèque humaine scientifique, des conférences, des ateliers de la robotique, le Fab Lab, le vaisseau des sciences, des observations astronomiques. Et à 17h30, c'est le retour des ciné-débats empreintes sur l'environnement avec un documentaire exclusif sur les tricots rayés. Alors ne manquez pas cette journée des sciences le 23 octobre à partir de 13h à l'UNC. Plus d'infos sur www.unc.nc.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance, et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Ou du tout. Ouh.
Avec Bonus Répare, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur e-réparation.eco, avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répare, c'est tout bonus.
Bonus Répare est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal avec le sport, Nicolas Legrand.
Et je le disais donc, du football ce matin, puisque la France affronte la Belgique pour la quatrième journée de la Ligue des Nations. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné à 5h45 au stade Roi Baudouin. Et il y a un but partout à la 50e minute de jeu. Hein, c'est la reprise dans cette deuxième mi-temps. Ce sont les Français qui ont ouvert le score via Randal Kolo Muani sur pénalty à la 35e minute de jeu. Alors il faut le dire, un petit peu contre le cours du jeu, puisque les Bleus ont été menés lors du premier acte et puis les Belges ont égalisé juste avant le retour au vestiaire. C'est donc le début de la seconde période. Début de la seconde période également entre l'Italie et Israël dans le même groupe, et c'est l'Italie qui mène logiquement 1-0. Du tennis, et deux Français dans le top 20 mondial, alors que Yannick Sinner a accentué son avance au classement ATP après sa victoire au Masters 1000 de Shanghai. Hugo Humbert, 16e, n'est plus le seul représentant tricolore dans le top 20, puisqu'Arthur Fils s'est hissé justement à la 20e place. Et puis, chez les femmes, Arina Sabalenka se rapproche d'Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, qui fait une pause. Il n'y a plus que 69 points d'écart entre les deux rivales.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors il y a beaucoup de choses à dire côté météo ce matin, Thierry, puisque déjà nous sommes en vigilance pour du vent.
Oui, sur le sud-ouest de Bouraï à Nouméa, sur le nord-est de Poingamayenguen et sur le sud-est de Canala Atio. Pour analyser, donc orienté est-sud-est qui soufflera entre 20 et 25 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 40 nœuds, c'est-à-dire aux environs de 75 km/h. Ce matin, les nuages élevés, le ciel sera souvent gris, des nuages bas et de faibles averses circuleront également sur la côte est et au Loyauté. La Lisée orientée donc est-sud-est reste à soutenir souvent proche des 20 nœuds, voire 25 nœuds, et des rafales prévues à 30-35 nœuds sur l'est, l'extrême nord et le sud-ouest. Cet après-midi, les nuages élevés s'épaissiront, la grisaille gagnera l'ensemble du territoire, de faibles ondées circuleront sur l'est et au Loyauté. L'Alizée, lui, sera orientée à l'est-sud-est à sud-est. Il se renforce autour des 20-25 nœuds avec des rafales à 30-35 nœuds, voire plus de 25 nœuds et jusqu'à 40 nœuds sur le sud-ouest et l'est. Il sera plus faible sur la pointe sud autour des 20 nœuds et également sur la région de Koumac où il s'approche des 15 nœuds. Les températures maximales restent fraîches pour la saison et ça se sent. Elle s'échelonne entre 22 degrés sur l'île des Pins, 24 à 25 degrés sur l'est et au Loyauté, et jusqu'à 26 voire 28 degrés, ce sera sur la côte ouest.
Merci mon cher Thierry pour ce point complet sur la météo. Il fait frais donc aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté ce journal.